Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez le podcast officiel du Design Humain, la référence du design humain francophone. Je suis Josette Lamotte, directrice et enseignante à l'École Design Humain France. Ce podcast me permet de partager avec vous des informations essentielles pour vous aider à vivre votre design et à comprendre plus en profondeur la mécanique du design humain. Cet épisode s'intitule « La mutation » et nous allons parler du processus de mutation en cours dans le circuit individuel et le plexus solaire. Voilà, donc bienvenue à cette conférence sur la mutation, qui est un sujet qu'on m'a demandé, on m'a proposé, on m'a invité, on m'a sollicité à parler de la mutation. La mutation qui a pris place depuis toujours, on va voir exactement, enfin à peu près, environ, mais celle qui est plus proche de nous, c'est celle qui a lieu autour de 1781, cette mutation des sept chakras aux neuf centres, et puis celle dont on parle beaucoup lorsque vous étudiez le design humain, c'est la mutation du plexus solaire. Donc, vous voyez, ça fait des fois déjà deux mutations dont vous avez peut-être entendu parler, même si vous êtes nouveau dans le design humain. Et la mutation des sept chakras aux neuf centres, c'est quelque chose qui s'est pas passé en cinq minutes, hein, bien sûr, ça s'est passé pendant sans doute étalé sur plusieurs années, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes bien dans un système aux neuf centres, l'être aux neuf centres, Homo sapiens in transitus. Et par exemple, si vous étudiez, vous prenez les cours Vivre son design, eh bien, on étudie dans le cours Vivre son design les neuf centres. Si vous vous rapprochez d'un analyste ou d'une analyste certifiée, eh bien, ils vont aussi vous parler de vos centres. Donc, c'est bien, bien clair. Mais celle dont je vais parler aujourd'hui, c'est surtout le plexus solaire, mais aussi faire un petit retour en arrière pour voir que la mutation de notre espèce humaine a pris place depuis longtemps, puisqu'elle est sur un long cycle de 19 000 ans, et nous, on est environ à peu près, hein, de 13 à 1400 années de la fin de cette mutation. On arrive au bout, ben, c'est quand même 1400 ans, c'est plus d'un siècle. Vous voyez, on a le temps de venir voir, mais on ne sera pas là au dernier jour. Mais on ne sait pas, on peut se réincarner, bien sûr. Mais tout au long de ce processus, a toujours eu lieu dans ce que nous appelons dans le design humain l'individualité. C'est-à-dire des activations du schéma corporel qui sont individuelles. Et celle qui a eu une mutation qui a eu lieu dans la porte 12, c'est une mutation importante, c'en est une, c'est la mutation du larynx, je vais en parler un petit peu aujourd'hui, dans la porte 12 qui se trouve dans la gorge, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est la porte 12, elle est dans la gorge, le larynx. Et puis, beaucoup d'entre vous savent que la mutation du plexus solaire se passe dans le canal 39-55, c'est le canal des humeurs changeantes, mais spécifiquement dans la porte 55. C'est elle qui subit la plus forte mutation en ce moment, qui va transformer, qui est en train de transformer le système du plexus solaire. Et puis, comme je viens de parler, le 12-22, lui, il a un rôle intéressant, enfin important, parce que c'est un canal individuel qui est sociable, hein, donc qui peut avoir de l'impact sur le potentiel d'influencer, d'impacter et de communiquer la mutation aux autres, et spécifiquement bah, tout le collectif et le tribal. Donc, cette individualité, pour ceux qui étudiaient, vous comprenez qu'elle a ce rôle de mutation, donc on peut voir déjà où ça se situe dans le schéma corporel. Et puis, cette mutation du larynx, Elle a commencé, non, il y a 80 000 ans, donc c'est pas aujourd'hui, hein, c'était la mutation du larynx, c'est-à-dire à partir du moment où on a pu passer au langage. Ah, nos ancêtres ne parlaient pas, ils avaient des sons comme les animaux, des grognements, des cris. Mais le larynx a permis, nous a donné, cette mutation du larynx a eu beaucoup d'impact puisque on sait qu'on a eu maintenant, on peut parler. Mais c'est aussi autre chose. Ça se voit avec les bébés. Le bébé, quand il arrive, il peut, par exemple, téter, hein, et puis s'allaiter, et puis respirer en même temps. Mais à un moment donné, il n'y arrivera plus. Ça ne fonctionne plus. Et c'est là que cette mutation s'installe. Nos ancêtres, ils arrivaient à faire ça en même temps. Nous, on ne peut pas respirer et boire en même temps. Quand on veut boire, on coupe notre respiration. Et cette mutation, elle a eu lieu dans la porte 12. Maintenant, une mutation, comme on l'a déjà dit, c'est pas quelque chose qui se passe d'un seul coup. C'est un processus mutatif. On est tous en ce moment sous l'emprise de la mutation. On sent que les choses changent et elles vont continuer à changer. Et c'est tout à fait, on va dire, presque entre guillemets, normal. C'est naturel. C'est plus le mot qui convient le mieux. Et la génération qui va bénéficier de ce processus parce qu'il s'achève, c'est la génération qui va incarner à la fois la mutation du larynx, mais aussi la mutation du plexus solaire, c'est-à-dire les gens qui ont à peu près 20-25 ans maintenant, ça commence à, et qui vont aussi être porteurs d'une mutation qui va nous amener vers le futur, vers la transition vers l'avenir. Donc, cette génération, c'est-à-dire que des jeunes, on va dire, hein, elle incarne le processus de transition. C'est cette génération qui va être porteuse et faire naître, permettre aux enfants rêves d'arriver. Donc, c'est pas les gens qui sont comme moi en fin de cycle, mais c'est les gens qui sont maintenant, oui, qui vont à partir de 2027, puisqu'on sait que l'arrivée des enfants rêves, ça arrive bientôt, c'est dans 4 ans. On y arrive. Donc, les gens qui vont être fertiles à ce moment-là, c'est eux qui vont être porteurs de cette mutation. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Pourquoi Ran en parlait finalement? C'est pour nous préparer à cette mutation. Oui, les enfants rêves arrivent, mais qui vont être les parents? Puisque l'influence que nous, on peut avoir en tant qu'éducateurs et que de gens qui peuvent en parler, eh bien, c'est aux parents qu'on doit s'adresser, aux parents de ces enfants rêves. Et on a les moyens dans le design humain d'aller voir quelles sont les caractéristiques, les activations que portent ces futurs parents, surtout grâce aux planètes qui bougent très doucement. Et on se rend compte un petit peu des planètes qui sont là, on peut déjà voir comment, enfin prévoir plus que voir, prévoir et prévoir de comment ça peut se passer pour eux, quels vont être leurs potentiels. Donc ce schéma de cette génération, c'est la continuation de ce que nous sommes, c'est la génération de la croix de l'Éden qui nous quitte, puisque la croix de l'Éden, il y en aura de moins en moins, mais elle ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Et ce processus, cette chose nouvelle, c'est l'achèvement de l'être au 900. C'est la fin, on est vers la fin de l'être au 900. Enfin, quand je dis la fin, je ne dis pas que ça va se passer en 2027. Ça va s'étaler ça va prendre encore un millier d'années. Donc, vous voyez, c'est pas, alors peut-être que l'être au 900, il va, enfin, on n'a pas de certitude, on sera pas là. Moi, je serai pas là pour le voir, mais on a vraiment ici, c'est l'apogée de l'être au 900. C'est aujourd'hui l'apogée de l'être au 900. C'est aujourd'hui qu'on a besoin de s'incarner en tant que 900. C'est pas après-demain, c'est-à-dire pas dans 1000 ans. Ce sera fini. Cette opportunité. Donc, cette génération, elle a besoin d'être guidée. Elle a besoin d'avoir des compétences, de comprendre comment se servir de son autorité intérieure, comment se servir de sa stratégie pour qu'elle puisse prendre cette décision elle-même, par elle-même. Et cette génération, elle a besoin de comprendre qu'elle va vivre une vie décidéraire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément des modèles pour l'aider, pour lui donner la marche à suivre. Donc, c'est nous qui sommes maintenant dans le rôle d'éducateurs, qui peuvent les aider à apprendre à discerner ce qui va les autonomiser, leur donner du pouvoir, les soutenir, et ce qui va plutôt les emmener dans un chemin de traverse. Et c'est là qu'on dit qu'il y a deux chemins possibles. Et on va le voir de plus en plus. Qu'il y a deux très, très parties. C'est vraiment un carrefour. On est à un carrefour. Soit cette génération vont arriver à trouver leur autonomie, ou alors il va y avoir beaucoup de confusion et de chaos pour les gens qui n'ont pas de trouver cette façon de s'auto-guider. Et puis, pourquoi? Parce qu'il y a une mutation qui est en cours. Donc, il y a une certaine... il y a beaucoup de choses. L'arrivée d'un matériel génétique inhabituel, c'est vraiment... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les cendres... on est à la... Pour ceux qui connaissent, c'est la croix du phénix dormant qui va arriver à sa fin. Et on a besoin de renaître de nos cendres. Et il s'agit d'établir un nouvel ordre à partir des cendres de l'ancien. C'est ce qu'on disait déjà lors de la conférence sur le nouveau cycle. Il y a une coexistence de l'ancien et du mutatif. La croix du phénix dormant, c'est la porte 55 qui reçoit cette mutation. Et c'est elle qui l'amène. Donc, quand je dis, rappelez-vous qu'ils sont des porteurs de la mutation, de quoi on parle? On parle de la nouvelle génération. Et pour eux, ça va être... Ils n'auront pas de modèle. C'est-à-dire, ils vont faire naître des enfants qui vont être complètement différents de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Des enfants... Donc, soit ils vont être prêts à recevoir ces enfants rêves qui ne ressembleront pas exactement aux humains, c'est-à-dire ils n'auront par exemple pas la parole. Par exemple, ils vont être très sensibles. Ils vont être sensibles aux fréquences énergétiques. Donc, ils vont être catégorisés par les institutions. Donc, ces parents, on voit qu'ils auront, ces jeunes gens, ces parents, ils ont accès, par exemple, à Neptune en porte 13, qui est un rôle une porte de rôle, une porte de rôle qui est une porte d'interaction. Soit on est ouvert à l'interaction, soit on n'est pas ouvert. Soit c'est une porte d'écoute, donc elle est prête, ces gens-là sont prêts à écouter ce qu'on a à leur dire. Mais, elle peut aussi, elle a, tout est dualité dans le design humain. Donc, soit la porte 13, elle est empathique, elle écoute, ou alors elle peut manquer totalement d'empathie. Et ça, ce serait quelque chose d'assez... Un manque d'empathie peut mener à... On le voit déjà dans notre société. On entend qu'il y a de moins en moins d'empathie. Il y a cette dualité, donc je disais bien deux chemins on va voir apparaître de plus en plus les gens qui vont être porteurs d'empathie, de bienveillance, et puis d'autres gens qui seront plutôt le contraire. Et puis, il y a la porte 33, hein, pour ceux qui connaissent, je sais que je parle de choses très détaillées, mais il y a des gens qui cherchent à comprendre ce qui va se passer. La porte 33, de l'autre côté, c'est la porte du prodigue. Donc, c'est le témoin. C'est le témoin, hein. C'est le témoin qui revient et qui, dans la finalité de son expérience, peut avoir l'opportunité de regarder, de réfléchir, et puis de passer à autre chose, ou d'expliquer déjà, de partager, et puis éventuellement, voilà. Donc la porte 33, elle a cette capacité d'être un témoin observateur de ce qui se passe. Et c'est intéressant de voir ça. C'est qu'il y a quand même un regard qui est là. Maintenant, les autres thèmes qu'on a ici, ce sont des thèmes soit de soutien. Je regarde si j'ai un autre schéma à vous montrer. Non, je ne l'ai pas. Mais soit on aura le soutien dans cette croix d'Éden. C'est une croix à angle droit. Ces gens-là ont porté la croix de l'angle droit de l'Éden. Donc, ce sont des gens qui vont pouvoir porter une mutation, la porter, et ça va se passer forcément dans le plexus solaire. Dans le plexus solaire, puisqu'on a dit qu'il y a une mutation qui est là, dans le plexus solaire. La porte 59 en fait partie. On a vu qu'il y a la porte 55, il y a la porte 59 qui est là. Et puis, donc, c'est forcément la conception, la fertilité. Mais on sait aussi que cette génération va faire face à, il y aura de moins en moins de fertilité dans les années à venir. C'est pas comme s'il va y avoir, on va se faire envahir par les enfants rêves, ça m'étonnerait. Ça va arriver petit à petit. Et puis, il y aura une coexistence des enfants rêves avec, bien sûr, des êtres neuf centres. C'est important pour nous de comprendre que, aussi au niveau de ce qui peut d'être capable de se protéger et puis d'aider cette génération à se protéger et des influences extérieures et puis de trouver le soutien, puisque ces enfants-là vont être tellement différents et qu'ils auront besoin d'être soutenus, compris. Mais ceux qui auront besoin de soutien, c'est pas tellement les enfants, bien sûr les enfants, mais c'est les parents. C'est les parents. Et puisque ça va être très émotionnel, il peut y avoir beaucoup de subjectivité. Il peut y avoir les émotions. Et j'en reviens à cette mutation du plexus solaire. La mutation du plexus solaire, ça nous parle d'abondance. La porte de l'état d'âme, c'est une histoire d'abondance. Pour ceux qui ne connaissent pas où se trouve le plexus solaire, dans votre schéma, il se trouve à droite, hein, de votre. C'est un triangle qui correspond au système nerveux, aux reins, au pancréas. Et on nous dit que c'est le centre des émotions, du système nerveux, de la passion, des sentiments, du potentiel de l'intelligence émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? Qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Quand on sait que quand on est émotionnel, on a tendance à vouloir chercher déjà en premier lieu pourquoi on est triste ou surtout pourquoi on est triste. Hein, si on se réveille le matin et qu'on est en creux de vague, on déteste tout. Tout va mal. Et on peut le sentir tout de suite. En fait, la première chose, c'est d'arrêter de chercher une raison. Parce que c'est juste de la chimie. C'est un piège de chercher une raison pour une humeur triste. Parce que l'humeur, elle va changer. Et en plus, c'est un piège aussi de se sentir coupable, ou d'avoir honte, ou de blâmer les autres. Tout ça, c'est le non-soi du centre du plexus solaire. Alors, cette intelligence émotionnelle, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire? Une des difficultés dans le plexus solaire, et c'est vraiment pour tout le monde, même les gens qui ont ce centre non défini, c'est que de comprendre que on ne peut pas toujours être en haut, que c'est une illusion, que c'est enfantin, que c'est immature de vouloir toujours rechercher la joie, le plaisir. C'est quelque chose d'irréaliste. Et ils vivront heureux jusqu'à la fin de leur jour. Bon, ils vont être heureux et des fois ils seront malheureux. Ça, c'est la réalité. Il y a la dualité. Si on a la joie, on a forcément la tristesse. Et là où il y a une erreur quelque part de compréhension, déjà c'est au niveau de l'intellect, de comprendre qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc si on comprend ça intellectuellement, qu'on ne peut pas avoir la joie sans la tristesse, bon, je vois ça, je me souviens même quand j'étais enfant et que je riais et que je jouais avec mon frère et mes parents me disaient toujours, attention, vous riez, vous allez pleurer tout à l'heure. Et fait, maman, je me disais, mais pourquoi ils disent ça? Et finalement, c'était très sage. Puisque chaque fois qu'on va dans un excès de quelque chose, si par exemple on mange trop, qu'est-ce qui va se passer après qu'on mange trop? On mange trop de gâteaux, on se bourre, bourre, bourre de gâteaux. On en mange, on en mange, on en mange, on en mange. Après, on est dégoûté. Mais c'est pareil avec le plaisir. Si on a trop, 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 trop de plaisir, à la fin, c'est plus du plaisir. Ça va virer au dégoût. Si vous êtes très, très, très amoureux et que vous passez tout votre temps, pendant 24 heures, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec votre amoureux, à un moment, vous allez avoir besoin de respirer. C'est pas réaliste d'être amoureux 24 heures sur 24. Il y a un moment, on a besoin de respirer. Et après, on revient avec encore plus d'enthousiasme, de plaisir, d'attente, de désir, tout ce que vous voulez. Et c'est ça la clé dans le plexus solaire, c'est de comprendre qu'il y a une dualité et de trouver l'équilibre, la balance. Et la balance, c'est pas un état qu'on trouve. L'équilibre, c'est pas quelque chose qu'on va trouver qui est fixe. L'équilibre, c'est un. Moi, ça me fait penser aux équilibristes, ceux qui marchent sur un fil là, dans un cirque, par exemple. Ils ont trouvé un équilibre entre la droite et la gauche. Entre en allant un petit peu du côté droit, après ils vont du côté gauche, ils dansent entre les deux. Et c'est tout le temps en mouvement. Et en fait, le plexus solaire et l'équilibre entre la joie et la tristesse, c'est une danse. Entre le plaisir et la douleur, c'est une danse. C'est pas quelque chose de stable. Et c'est l'art de trouver ça, finalement. C'est un art qui se vit dans le présent. On peut pas le prévoir pour le futur. Demain, je serai en équilibre. Non, demain, tu feras de ton mieux. Chaque moment, tu vas trouver l'équilibre entre le plaisir et la douleur. C'est ça, l'intelligence émotionnelle. C'est de trouver son équilibre. Votre équilibre. Entre, ben, toutes les petites joies de la vie et toutes les petites tristesses, les grandes tristesses. Et que tout le monde, sans exception, vit les deux tout le temps. Et que personne ne peut y échapper. On ne peut pas être que tout le temps joyeux. Bien, on est en train de grandir dans ce domaine-là. Et chacun de nous a son chemin à faire dans ce cheminement pour arriver à comprendre qu'il n'y a jamais une stabilité. Et quelque part, la porte 55, elle le vit depuis longtemps, ça. Les gens qui portent la porte 55, ils vivent ça profondément, puisqu'on les. On les accuse même quelquefois de ne pas savoir ce qu'ils veulent jamais. Parce qu'ils sont tout le temps en mouvement, tout le temps en mouvement. Oui, j'aime, oui, j'aime pas. Oui, j'aime, oui, j'aime pas. Oui, j'aime, j'aime, mais j'aime pas. Je t'aime, mais je t'aime pas. Oui, mais je t'aime un peu, mais je t'aime pas un peu. Donc on a l'impression qu'elle sait jamais ce qu'elle veut. Mais quelque part, si on se penche un peu dessus, elle a raison. Enfin, c'est pas la logique qui parle. Ça peut pas s'exprimer logiquement ce que j'exprime. C'est que par le vécu. C'est une expérience qui fait que si on est vraiment honnête, authentique, on est toujours en fluctuation. Et c'est d'arriver à vivre dans cette fluctuation qui va nous permettre d'évoluer et de comprendre aussi à quel point ces enfants qui vont arriver vont être sensibles à tout ça. Ils vont pas apprécier les extrêmes. Ils vont fuir les extrêmes. Donc, si notre société, elle est trop passionnée, ou si on n'a pas d'équilibre, alors on voit où ça mène. On est encore en guerre. Notre société est en guerre. Donc, c'est pas un équilibre, la guerre. C'est un excès. Donc, on dirait qu'en tant qu'être humain, on n'arrive pas à trouver cet équilibre. Donc, c'est peut-être pour ça que finalement, Enfin, c'est pour ça, c'est pas que peut-être. Notre société, notre humanité, notre espèce humaine a besoin d'aide et c'est pour ça qu'une autre espèce va naître. Et qu'ils seront plus, on espère, enfin, on verra. En tout cas, c'est ce que nous enseigne le design humain. Ils sont là pour nous aider à quelque part survivre dans un monde qui est en déclin et qui n'arrive pas à trouver justement le juste milieu. Alors, ses parents, puisque c'est ça aujourd'hui que j'aimerais dont j'aimerais parler surtout pour finir, pour revenir à cette thématique, c'est de comprendre que qu'on est en plein changement et qu'une mutation est en train d'émerger et qu'on voit le déclin maintenant de tout, hein, il y aura un manque de fertilité qui va accroître, mais aussi la façon dont certaines choses fonctionnent change. On a bien vu qu'avec le virus, les choses ont changé. Il y a des choses qui ont changé, il y a d'autres choses qui vont changer. On est tous en train de vivre ça. Et que quand on regarde le schéma, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec Saturne, et puis en ligne 3, on voit qu'il y a des lignes 3. Et la ligne 3, elle, c'est la ligne la plus mutative. Donc, c'est comme si on pourrait dire que cette génération qui porteuse de ligne 3, eh bien, elle a deux, la ligne 3, elle a deux comportements. Soit elle brûle les ponts, elle se coupe des alliances, et elle va tomber dans le pessimisme. Ou alors, elle s'adapte, elle est résiliente, elle ne tombe pas dans la victimisation et elle apporte le changement. Et c'est ce qu'on va voir le plus se développer ou le potentiel. On va voir qu'il y a toujours deux chemins, deux potentiels, soit d'être positif, optimiste, résilient et de se focaliser sur ce qui marche et de trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Il suffit de la trouver, la solution. Ou alors, on est pessimiste, on se victimise, on blâme, on critique, on coupe les ponts. Donc, il va y avoir ces deux dimensions sociales qu'on va voir apparaître, qu'on voit déjà, mais qui vont apparaître de plus. Et de comprendre qu'il y a toujours ce processus d'essai et d'erreur. Les projecteurs ont leur rôle à jouer en tant que guide. Et ils ont le rôle de reconnaissance à jouer. Parce que la qualité d'un projecteur, elle est directement liée à combien il est capable de reconnaître. De reconnaître voilà, qui est efficace, qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. Cette nouvelle génération, elle aura besoin de comprendre ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Et d'éviter la confrontation, hein, avec ce qui ne. Quand je dis éviter la confrontation, il ne s'agit pas de l'éviter, de confronter ce qui nous convient et ce qui ne convient pas. Voilà en gros ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la mutation. L'analyse holistique, pour vous, dans le design humain, c'est ce qui est le plus porteur, je dirais, de mutations. Ça peut vous aider à vous mettre sur la bonne voie pour vous arriver à vous adapter, vous donner les outils, par exemple, ne pas tant succomber à tous les petits stratagèmes d'écouter, de prendre des décisions avec votre mental. C'est le mental qui aime bien être le chef. Et une des choses qu'on apprend dans le design humain, quand on commence à approfondir, c'est que dans le design humain, l'autorité intérieure, tout le monde en a une et ce n'est jamais le mental. Si vous ne connaissez pas votre autorité intérieure, vous pouvez essayer de la trouver en commandant un rapport de synthèse. C'est un rapport écrit de votre design qui vous donne votre stratégie, votre autorité intérieure et puis la base de votre design. Vous pouvez aussi trouver gratuitement votre schéma corporel. Le plus important, je dirais, c'est de vous rapprocher d'un professionnel qui est inscrit sur le registre des professionnels de l'école de design humain France ou de l'école de l'international. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui se proclament certifiés sur les réseaux sociaux ou autres. Donc, méfiez-vous, rapprochez-vous de quelqu'un qui est vraiment listé sur les registres que l'on conseille. Et puis, vous trouverez ce registre et le nom aussi des gens qui sont certifiés sur le livre référence du design humain, La science de la différenciation, qui est vraiment le livre en français que vous trouvez aussi maintenant en ligne. Je vous remercie de votre écoute et je vous propose maintenant d'écouter, de poser des questions, de partager et on va essayer d'y répondre.
C'est plus une réflexion et peut-être une question.
Oui.
En fait, en t'écoutant, je me dis, tu parles de carrefour, je crois qu'effectivement, on est en plein carrefour pour l'instant. On le vit de plus en plus, enfin moi en tout cas personnellement. Et j'ai, en conclusion, en fait, en réflexion globale, je me dis qu'effectivement, le salut de notre humanité passera effectivement par des individualités entre guillemets égoïstes, mais autonomes, conscientes. Et je crois qu'on est arrivé aujourd'hui à comprendre que, enfin, moi c'est comme ça que je le comprends, que la société collective, les sociétés collectives dans lesquelles on vit, c'est-à-dire en Belgique, en France, etc., nous cédons notre pouvoir à une ou quelques personnes qui décident pour nous, comme pour l'instant ils sont en train de décider est-ce qu'on fait la guerre ou pas, le peuple n'est pas concerné. Et je crois que plus on va aller vers effectivement des conscientisations et de l'éducation individuelle permettant à chacun de savoir prendre ses décisions personnelles pour son bien en fonction de qui il est et de ce pourquoi il est, je crois qu'effectivement, pour arriver à une collectivité d'individus qui apprendront et qui vivront ensemble dans la paix et en respect des autres. Je crois que je vois l'histoire du monde comme ça. Je ne sais pas si c'est trop mental ou si c'est possible.
Non, merci Vincent, merci. Maintenant, moi, je reste en dehors de tout ce qui est politique, mais plutôt, oui, là où je raisonne avec ce que tu dis, c'est que la mutation, elle passe par le circuit individuel. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le design humain. Et on le voit, ça se voit sur le schéma, on voit bien que c'est ce qui se passe. Et que, après, on a besoin de chacun. C'est notre responsabilité à chacun, mais aussi, d'en parler autour de nous et puis de se servir de ces outils que nous donne le design pour ne pas nous laisser influencer. On l'a vu, on en vient de vivre tout le monde a eu des choix à faire et quelquefois des choix pas faciles à faire parce qu'il y a beaucoup de pression de tous les côtés. Et de vous écouter, vous, à l'intérieur de vous, d'éduquer vos enfants à en faire autant. Et de rester optimiste, de pas tomber dans la peur et le pessimisme.
Concernant la porte qui est en face de la 55, donc la 55, j'ai bien compris ce qu'elle signifie et là où s'effectuent les changements actuels au niveau du plexus solaire, et de quelle manière correspond est en résonance la porte 39? Elle aussi, elle vient appuyer quelque chose? Sur le schéma, là, je vois la porte 12, donc il y a un circuit, un canal de canaux qui sont complètement liés, et la porte 39 qui est en face de la 55, qu'est-ce qu'elle dit, elle?
La porte 39, c'est une porte qui provoque elle est provocatrice. Je suis porteuse, j'ai cette porte 39 et j'ai la porte 55 aussi. Je ne suis pas la seule, il y a d'autres personnes pas ici qui ont ce canal. Elle provoque, elle est là pour provoquer, donc elle va sans doute continuer à provoquer. Ce n'est pas forcément avec des mots, des fois c'est une fréquence de provocation une attitude, ça peut être aussi au niveau physique. Mais ce canal-là, il est très provocateur. Il est provocateur parce qu'il cherche l'authenticité chez l'autre, mais au niveau émotionnel, c'est-à-dire au niveau de l'âme, de savoir qu'est-ce que c'est vraiment que vous avez au fond de vous, quoi. Est-ce que c'est authentique ou c'est vous faites semblant? C'est pas réfléchi, ça se fait tout seul. On dit par rapport à ça, par rapport à ces portes-là, que si ce canal-là qui est provocateur, si quelqu'un n'apprécie pas votre provocation et votre façon d'être, ça veut dire que ces gens-là ne sont pas pour vous. Parce que quelqu'un qui a la porte 39 et qui provoque, il ne peut pas faire autrement que provoquer. C'est comme si vous demandiez à, moi je ne sais pas, un chien de ne pas aboyer. À moins que vous lui coupiez les cordes vocales, il va tout le temps aboyer puisque c'est sa façon de communiquer. Enfin, moi, j'ai vécu ça en tant qu'analyste avec des parents qui viennent, qui me disent « Oui, ma fille, elle est provocatrice à la maison, elle n'arrête pas de nous provoquer, c'est très difficile. » Et en fait, je dis « Ne faites rien. Si vous ne faites rien, elle va arrêter de provoquer. » Donc, quelque part, elle cherche à voir si vous pouvez garder l'équilibre. Elle vous pousse d'un côté pour voir si vous allez tomber en déséquilibre. Mais si vous restez équilibré, elle va s'ennuyer, elle va passer à autre chose. Bon, vous voyez, c'est difficile d'en parler, hein, parce que c'est pas abstrait tout ça, c'est du vécu. Donc j'essaye d'en parler en donnant des images, mais voyez ce que je veux dire. Oui, Sandrine.
Justement, sur ce plexus solaire, alors du coup, est-ce que il y a une conséquence à ce que le plexus soit défini ou non défini par rapport à cette porte en mutation?
Oui, alors ça, c'est une question intéressante, je dirais, parce que celui qui mène le bal au niveau de la fréquence énergétique émotionnelle de la planète, c'est le centre défini. C'est sa responsabilité de trouver l'équilibre quelque part. Et les autres, c'est-à-dire les 50% de gens qui ont ce centre blanc, eux, leur responsabilité, c'est aussi de garder le calme, l'équilibre, de garder la fonction miroir, puisque quand vous avez ce centre blanc, la fonction de ce centre pour vous, c'est d'être un miroir. J'aime bien dire un lac miroir, parce que le lac, il y a beaucoup d'eau. On prend souvent l'image dans le design d'un beau lac miroir de montagne où se reflètent, c'est magnifique, les arbres, la montagne. Mais il n'y a pas une seule vague, c'est très calme. C'est un équilibre parfait. C'est zen. La difficulté, c'est qu'on ne vous apprend pas à rester zen à l'école comme ça. Hein, on ne vous dit pas que automatiquement, c'est une tendance à s'éponger et amplifier les émotions de votre entourage. Donc, votre responsabilité, c'est d'apprendre à rester zen, d'apprendre à rester, à garder cette fonction miroir. Et ça se fait avec de la prise de conscience et un tout petit peu de discipline. Il faut s'en rappeler. Comme ceux qui ont le plexus solaire défini, votre responsabilité, c'est de vous rendre compte quand vous êtes en bas. Devenez-en conscient et avertissez votre entourage que vous êtes en bas. Avertissez votre enfant. Si vous êtes une maman, que vous êtes en bas de vague, avertissez même, parlez à votre bébé. Si vous avez besoin de le prendre dans les bras, disez, c'est pas de ta faute si maman est triste. C'est que la vague. C'est pas grave, ça va remonter. Même un enfant, et les enfants rêves vont être très, très, très susceptibles à toutes ces fréquences, sensibles aux fréquences énergétiques. C'est un peu, déjà dans l'autisme, on a une sensibilité extrême. Ils vont être encore plus sensibles, sans la parole, télépathique. Donc nous, on a besoin d'arriver déjà à comprendre comment ça marche et puis à être responsable. Si vous avez ce centre blanc, c'est impératif que vous arrêtiez, que vous réussissiez à ne plus amplifier et plonger les émotions des autres, ou alors d'essayer de les réparer. À Arrêtez de vous culpabiliser, ça n'a jamais été de votre faute. Apprenez, apprenez. Et c'est ce qu'on vous explique dans une analyse, c'est ce qu'on vous explique quand vous venez en formation. Ça, ça ne se lit pas forcément dans un livre. C'est à vivre. C'est une technique que vous avez besoin de pratiquer.
Vous avez un peu répondu à ma question parce que j'allais parler justement des enfants autistes. Je pense que Rahn avait fait mention il y a très longtemps, il avait déjà vu venir cette, pas une tendance, mais cette mouvance qu'il y aurait de plus en plus d'enfants autistes et qui en fait sont un peu cette mutation qui est en marche avant d'être le vrai enfant rêve, et que la société actuelle n'a absolument aucune compréhension de ces enfants et allait les mettre dans des institutions alors qu'il y a toute une possibilité pour ces enfants. Et en fait, elle est dans cette mutation du plexus solaire, si je la comprends.
On risque de les institutionnaliser, ces enfants-là, si on n'est pas prêts, nous et cette génération, à ne... Qu'est-ce qui va arriver quand vous avez un enfant qui ne parle pas? Qu'est-ce que les médecins vont dire? Est-ce qu'ils vont leur donner des médicaments? Est-ce qu'ils vont les enfermer dans une institution alors que ces enfants rêvent, ils pourront survivre que si ils sont en présence d'autres enfants comme eux? Donc, la première chose à faire, c'est de trouver. C'est-à-dire que nous, les adultes, là, maintenant, on a besoin d'en parler. On a besoin d'être au taquet et de dire, de regarder ce qui se passe et d'en parler. Et de dire, ah, je connais quelqu'un d'autre qui a un enfant comme ça. Peut-être que vous pourriez, vous. Bon, à mon avis, ça va se mettre en place. Mais on est obligé d'en parler un petit peu. Enfin, quand je dis on est obligé, c'est la raison pour laquelle je parle aujourd'hui de ces choses-là. C'est qu'on soit un petit peu conscients. Ils auront besoin de soutien, ces jeunes gens, ces jeunes parents. C'est la fin de notre podcast. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé des prochains épisodes. Et n'oubliez pas de visiter le site de desainshumainsfrance.com pour découvrir les rapports de synthèse ou vous inscrire aux conférences gratuites. Vous pouvez y trouver aussi des informations sur les formations de l'école et vous pouvez prendre rendez-vous pour une analyse ou pour vous inscrire au cours Vivre Son Design. À bientôt!